Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. Notre invité ce soir, il est l'un des vice-présidents du Front National, celui que l'on présente régulièrement comme le bras droit de Marine Le Pen. Bonsoir Florian Philippot.
Bonsoir.
De votre parti, le Front National, il sera bien sûr longuement question dans la seconde partie de l'émission. Après les résultats de 2015, votre parti doit-il revoir sa stratégie pour l'emporter en 2017? Doit-il changer de nom pour s'ouvrir à un nouvel électorat? Vous nous donnerez votre sentiment, mais avant cela, nous allons évoquer la lutte contre le terrorisme. Non, après les attentats de Charlie Hebdo et 2 mois après ceux de Paris, à mes côtés ce soir, pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24, bonsoir Roselyne.
Bonsoir Pierre.
Et Dominique Albertini du quotidien Libération, bonsoir Dominique.
Bonsoir.
L'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés en France agite la classe politique depuis maintenant plusieurs semaines. Cette mesure, vous la défendez au Front National depuis longtemps. Vous comprenez que cela suscite un débat aussi passionné, Florian Philippot?
Mais j'ai l'impression que le débat est passionné, comme vous dites, parmi une partie de la classe politique. J'ai le sentiment que c'est beaucoup plus simple parmi nos compatriotes, qui quand même, dans une très large majorité, soutiennent cette mesure, soutiennent le principe même, encadré évidemment, hein, de la déchéance de nationalité, et doivent regarder un petit peu effarés des députés ou des élus, notamment socialistes, aussi quelques-uns à l'UMP, s'interroger sur cette mesure qui paraît pourtant évidente à peu près pour tout le monde. D'autant que la réforme proposée est quand même très restrictive.
Oui, ça paraît évident, mais à gauche comme à droite, on dit, en gros, cette mesure, ça sert à quoi? Est-ce que ça peut vraiment servir à combattre le terrorisme ou aller uniquement dans le domaine du symbole?
On est clairement d'abord dans le domaine du symbole, mais le symbole n'est pas rien en politique. Hein. Il est évident que peut-être que si ça suscite tant de passion, débat dans la classe politique, une partie en tout cas, c'est parce qu'on ne s'est pas interrogé pendant des années, on n'a pas voulu s'interroger pendant des années, peut-être même des décennies, sur la question de la nationalité, qui est une question essentielle. Et derrière, sur la question de la nation, de l'appartenance à la nation, qu'est-ce que ça veut dire être français? Est-ce que c'est simplement comme cela un bout de papier, un statut administratif, ou est-ce que être français, c'est aussi adhérer à un ensemble de valeurs, c'est être fier, une certaine fierté, je pense tout à fait légitime, d'être de la communauté nationale française. Ces débats-là, on aurait dû les avoir depuis très longtemps. Et moi, j'estime que non seulement on est dans le domaine du symbole, bien sûr, mais si la mesure était bien comprise et bien appliquée, comme déjà le prévoit le code civil français, hein, tout simplement, eh bien, elle pourrait aussi être efficace, avoir son efficacité, notamment en amont. Moi, je pense qu'il faudrait étendre le principe de déchéance de nationalité pour les binationaux qui sont actuellement dans des entreprises, engagées dans des entreprises djihadistes, qui vont s'entraîner en Syrie, en Irak, pour tuer des Français. Là, ce serait plus que symbolique.
Mais alors, juste, si on s'arrête sur les chiffres, Christiane Taubira disait que l'efficacité de cette mesure était absolument dérisoire, et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, depuis 73, 26 déchéances de nationalité, en l'espace de plus de 40 ans, 26 déchéances à peine, c'est une mesure, vraiment, on est vraiment dans le domaine du symbole. Ça ne permet pas de lutter au quotidien contre le djihadisme.
Ah, mais parce que depuis 73, au moins, la mesure était totalement diabolisée. Donc ne nous étonnons pas si elle n'était pas appliquée, évidemment, ou elle était appliquée très 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 rarement. Là, ce débat, le fait qu'on l'inscrive dans la Constitution, ce qui n'est pas rien, c'est la norme suprême dans notre pays, eh bien ça revalorise, ça réhabilite ce principe, tant mieux. Et je crois que en écho, ça réhabilite donc la nationalité. Ça réhabilite la nation dans une de ses composantes essentielles, c'est qui est français ? Qu'est-ce qu'on a comme droit et comme devoir quand on est français? Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à la communauté nationale? Voilà. Quant à Mme Taubira, excusez-moi, son jugement est intéressant, mais moi je constate qu'elle est ministre,
garde des Sceaux,
ministre de la Justice, que son nom est inscrit sur le projet de loi constitutionnel.
Mais elle ne défendra pas le texte.
Oui, j'ai appris cela, simplement M. Valls le fera, mais bon, malgré tout, elle est engagée, elle est membre du gouvernement, ministre éminent, et malgré tout, elle est contre cette mesure. C'est tout à fait particulier, je pense qu'elle n'a pas sa place dans le gouvernement.
Alors, est-ce que ce sera dans votre programme pour 2017, puisque c'était déjà, il me semble qu'il y a quelques mois déjà, Marine Le Pen disait que pour les binationaux, ils devraient choisir une seule nationalité, que dans le fond, deux nationalités n'étaient pas gérables. Est-ce que vous êtes toujours sur cette...
Oui,
ce mode-là aujourd'hui.
Est-ce que vous pourriez faire cette proposition? Une mesure qui était dans le projet présidentiel sur la binationalité.
En 2012, oui.
nous avons, et d'ailleurs ce débat de la défiance pose la question de la binationalité aussi.
Oui, hein. Parce qu'on a vraiment l'impression que derrière ça, vous mettez en avant cette mesure-là, mais vous avez sans doute conscience qu'elle est assez symbolique, elle ne sert peut-être pas à grand-chose, mais derrière, vous voulez lutter contre la double nationalité,
oui, c'est
votre vrai objectif.
Non, mais moi
c'est
je
ça.
Veux...
L'objectif
la binationalité,
caché,
si vous voulez,
enfin
la
plus très caché.
Non, mais pas caché, on l'avait mis de manière très claire dans le projet
présidentiel.
Mais vous
l'avez pas repris depuis 2012.
Voilà.
Il y a des moments où les débats sont sur la table et des moments où ils ne le sont pas. Il se trouve que nous estimons qu'il faut avoir... on peut avoir une allégeance et que, notamment en cas de conflit, les choses peuvent être compliquées quand vous avez une double nationalité. Imaginez que vous êtes la France est en conflit contre un autre pays et que c'est votre deuxième nationalité. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, c'est une vraie question et nous sommes par principe favorables au principe d'une seule nationalité et donc d'un choix. Voilà. Mais d'un choix, d'un libre choix. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'un libre choix. Et je pense qu'en ce sens, il faut se poser la question derrière de l'acquisition de la nationalité. C'est une question peut-être encore plus essentielle.
Vous ne voulez pas qu'elle soit automatique ?
Non, je ne veux pas qu'elle soit automatique. Et je regarde les chiffres, je vois 100 000 naturalisations par an. Même chiffre à peu près sous Nicolas Sarkozy que sous le mandat de François Hollande. C'est évidemment beaucoup trop. Il faudrait mettre en place des critères beaucoup plus méritocratiques. Et donc sélectif. Par exemple, évidemment, casier judiciaire vierge, assiduité scolaire, quand ça sanctionne un parcours scolaire ou universitaire, la maîtrise de la langue française, le respect de nos valeurs républicaines, l'assimilation, vous voyez. Et là, je pense que, bien sûr que la nationalité française, elle s'hérite ou se mérite, comme nous le disons depuis longtemps, mais elle doit se mériter vraiment. Et non pas être automatique. Et c'est peut-être une question infiniment plus importante que la simple déchéance de nationalité.
Concernant la déchéance, comment faire pour éviter la réciproque, à savoir que d'autres pays adoptent une même mesure et envoient chez eux d'anciens binationaux, autrefois franco-marocains, qui ne seraient désormais que français, par exemple ?
Alors, pour le coup, je crois que le Maroc n'est pas un bon exemple, parce qu'on ne peut pas perdre la nationalité du tout marocaine. Ça fait partie de leur tradition et leur
droit. Mais si la Tunisie, l'Algérie mettaient en place une telle mesure ?
Écoutez, pour l'instant, le débat, il est en France. Et je pense qu'ensuite, c'est du ressort de la diplomatie, de la négociation internationale, négociation entre deux pays. Et il faudrait, si ce cas se présentait, le cas échéant, évidemment, négocier avec le pays en face. Bon, ça fait partie... On a de bons diplomates en France. Il y a des traditions diplomatiques.
Alors, vous, au Front National, vous défendez la déchéance de nationalité pour, pas forcément que pour les crimes de terrorisme, mais aussi pour les crimes de sang.
Oui, nous estimons que la déchéance de nationalité, je vous l'ai dit, doit être non pas simplement sanctionner ceux qui sont condamnés définitivement pour terrorisme, hein, c'est ce qui est prévu par le texte actuel, mais condamner aussi ceux qui s'entraînent actuellement et qui sont pour cela condamnés par la justice, par exemple, je cite la Syrie, l'Irak, parce que c'est surtout là-bas que ça se passe, pour venir combattre ensuite et tuer des Français sur le territoire français, puisque si on leur enlève la nationalité française, on peut ensuite les expulser et donc s'en protéger. On pourrait imaginer aussi l'étendre à certains crimes de sang. Mais ça doit être l'objet d'un débat national, les crimes les plus graves. Je pense que ce serait aussi là une mesure plus que symbolique, mais également efficace.
Alors, dans ce projet de révision constitutionnelle, il n'y a pas que la déchéance de nationalité, il y a aussi l'inscription de l'état d'urgence. On imagine que là-dessus, vous y êtes plutôt favorable.
Alors là, pour le coup, ni favorable ni défavorable, je pense que c'est de la cosmétique. C'est un peu
ça
du
sert
verbiage.
À rien.
Je pense que ça ne sert à rien, non. Non, je pense que inscrire ou pas l'état d'urgence dans la Constitution ne changera rien. L'état d'urgence existe déjà. Il a déjà été appliqué, puisqu'on est sous état d'urgence. Il a été appliqué en 2005 et même avant. Donc je ne vois pas très bien l'intérêt, pour le coup, de modifier la Constitution, pour le plaisir de modifier la Constitution. Et la Constitution, quand même, par principe, ne va pas être modifiée trop souvent. Je sais qu'on le fait sans arrêt depuis 1992. C'est souvent d'ailleurs pour adapter le droit français au droit européen. C'est tout à fait navrant pour nous enlever de la souveraineté nationale. Mais normalement, notre constitution devrait être assez stable. Sinon, c'est qu'il y a un problème institutionnel en France.
Dominique Albertini.
Là, les mesures dont on parle concernent le front intérieur, en quelque sorte, en matière internationale, pour lutter contre l'État islamique là où il est, là où il se bat. Que propose le Front National ?
Ben, le Front National... est extrêmement cohérent en matière de politique étrangère dans son discours depuis des années. Il dit d'abord que nous devons faire en sorte de ne pas attaquer, de ne pas faire des pays qui luttent sur place au Moyen-Orient, notamment contre l'État islamique, des ennemis. C'est-à-dire que depuis longtemps, nous avons appelé à une coopération internationale avec des pays qui luttent contre le djihadisme et l'État islamique, évidemment le gouvernement syrien, évidemment la Russie et d'autres.
Malgré tous les morts qu'a provoqué le gouvernement de Bachar el-Assad ?
C'est là-bas, c'est moi je veux dire, c'est pas mon ami Bachar Assad.
D'ailleurs, pourtant, je ne le connais pas. Il a été ami avec des gens du Front National, a priori.
Pas des dirigeants, en tout cas. Mais il se trouve qu'il y a une situation de guerre civile qui est compliquée, évidemment. Et probablement que les Syriens, si un jour s'ils se choisissent un autre destin, ils auront droit à un autre destin meilleur. Mais aujourd'hui, il faut pas. Je pense que tout ne se vaut pas. Je veux dire, l'ennemi aujourd'hui, c'est l'État islamique, c'est Daesh. Et donc, si le gouvernement syrien, qui de surcroît connaît bien le terrain, par définition, puisque c'est chez lui, et en Irak, lutte contre l'État islamique, il faut être à ses côtés pour le faire. Et il faut notamment coopérer avec le renseignement syrien. Sinon, on perd énormément d'informations et on se met nous-mêmes en danger. Et il faut coopérer avec la Russie. Mais bon, je ne suis plus très original à dire cela, puisque depuis le 13 novembre, François Hollande s'est rallié à notre analyse, celle que nous faisions depuis longtemps, tant mieux. On avait été très critiqué pour cela, et pourtant, maintenant, ça apparaît comme une évidence pour tout le monde, tant mieux. Si nous faisons avancer nos idées, c'est une bonne chose, y compris sur la déchéance de nationalité. Et puis, je pense que la diplomatie française devrait être beaucoup plus libre. Elle devrait avoir ce rôle d'arbitre. Mais par exemple, dans le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, elle ne peut pas aujourd'hui avoir ce rôle d'arbitre parce qu'elle est suspectée, à raison, d'être suiveuse par rapport aux États-Unis et donc plutôt pro-Arabie saoudite.
Mais alors,
et donc on ne peut plus jouer ce rôle d'arbitre qui est normalement le rôle de la France, notamment au Moyen-Orient.
D'accord, mais si on se limite au conflit syrien, est-ce que c'est possible de vaincre Daesh tout seul, en allant tout seul au combat, ou est-ce qu'il faut faire une alliance?
Je viens de vous parler de coopération avec la Syrie, avec la Russie, avec les États-Unis, avec des pays européens, avec des pays africains, bien sûr. Je veux dire, avec toutes les personnes, tous les pays plutôt de bonne volonté et qui sont victimes de l'État islamique. Il ne s'agit pas d'y aller tout seul, il s'agit d'avoir aussi quelques moyens pour le faire. Et donc de revoir nos capacités militaires, d'arrêter de diminuer nos capacités militaires. On a à peu près aujourd'hui un budget militaire qui est à 1,5% du PIB. C'est très très peu.
C'est le seul budget qui n'a pas été entamé, un des rares budgets qui n'a pas été entamé par le président de la République.
Mais il l'a été tellement ces 20 dernières années. C'était massif, notamment sous Nicolas Sarkozy. Sarkozy a supprimé 54 000 hommes dans l'armée. Hollande a arrêté la saignée, mais on n'augmente pas le budget militaire. Et je ne suis même pas tout à fait certain, en réalité, il faudra regarder de près qu'on le sanctuarise. Et donc là, il faudrait faire un effort et porter ce budget militaire à 2% du PIB. Progressivement, sur un mandat. Ce sera un effort, mais il faudra le faire de toute façon.
Ça serait forcément...
Sinon, la France n'a plus de crédibilité. Une diplomatie, une voix... Déjà, il faut qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Peut-être... Mais même, il faudrait quitter le commandement intégré de l'OTAN retrouver cette liberté, celui dans lequel Sarkozy nous a remis. Et puis ensuite, avoir des moyens militaires à côté.
Mais ça voudrait
un
dire...
deuxième porte-avions, par exemple. Ça
voudrait dire qu'il faudrait faire des économies ailleurs. Et ça, c'est un autre débat.
Oui, ou créer de la croissance. Ce serait pas mal.
Juste pour revenir sur les mesures qui sont prises en France. Actuellement, on parlait de la révision constitutionnelle qui est en place. Le gouvernement propose également d'autres mesures pour combattre le terrorisme. Parmi ces mesures, il y a la multiplication des assignations à résidence, les fouilles et les perquisitions de nuit sous l'autorité du préfet et non plus du procureur. Des mesures qui inquiètent l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, invité hier de nos confrères de BFM TV.
On est rentré dans un État qui veut se passer de la justice, du juge judiciaire. Ça, c'est, on qualifie comme on veut, un peu d'État policier ou pas, vous prenez l'actif que vous voulez. Le constat, c'est qu'on est dans un État où on a décidé qu'on ne pouvait pas se passer de preuves. Et ça, c'est très dangereux. C'est pas qu'une question de juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juge, il a besoin d'éléments de preuve, un minimum d'éléments. Oui. À partir du moment où vous dites, quand il n'y a pas de preuve, on va assigner à résidence, on va prendre d'autres sortes de mesures, parce que là, il n'y a pas besoin de preuve, vous rentrez dans une logique, qui est potentiellement dangereuse.
Ce renforcement des pouvoirs de la police au détriment de celui des juges, ça vous inquiète, Florence Philippot?
Je pense qu'il faut regarder dans le détail. S'il y a quelques facilités de procédure réclamées depuis longtemps par les forces de l'ordre ou par la justice, il faut y aller. On sait que parfois, c'est des choses qui sont un peu compliquées, qui ne devraient pas exister. Il faut simplifier les procédures pour être plus efficaces, plus rapides, plus réactifs. Par contre, se passer du contrôle de la justice, j'ai le même raisonnement que celui que nous avons sur la loi renseignement, que nous avons refusé. On ne peut pas sortir du cadre de l'état de droit. Voilà. Et si vous voulez, d'autant plus qu'on ne peut pas faire cela si on n'a pas pris de vraies mesures à côté. Parce qu'on discute de quoi, là? On discute de petites choses qui, parfois, effectivement, poseront problème pour les libertés publiques. Et ça, il faut y être attentif. Mais on ne discute pas des choses essentielles. La France reste un pays qui n'a pas de frontières. Qui n'a pas de frontières nationales. On n'a toujours pas remis en cause les dogmes de l'Union européenne et Schengen. Il serait temps d'en sortir. Si François Hollande veut faire un référendum, qu'il fasse par exemple un référendum sur Schengen, sur notre appartenance à Schengen. Ça pourrait être une manière d'occuper électoralement l'année 2016 sur un vrai débat. Et ce serait extrêmement intéressant d'interroger les Français sur ce sujet. On discute de la couleur de la passoire, ou de sa taille, ou de sa forme, mais on est dans la passoire.
En ce moment, on entend peu le Front National. Et est-ce que dans le fond, François Hollande a fait ce qu'on appelle en termes politiques de la triangulation, ce qui a fait la politique de l'adversaire, et en l'occurrence la vôtre, puisqu'il a mis en place cette déchéance de nationalité. Il y a eu ce virage sécuritaire après novembre 2013. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez gagné une première bataille qui est non pas des moindres, qui est la bataille idéologique ?
Ça me paraît évident. Nous avons gagné et renforcé en 2015 des batailles idéologiques considérables. Vous savez.
Mais pour autant, vous ne franchirez pas, vous le savez, le
non,
stade
mais vous dites,
du,
on
des 50%
peu le
dans
Front
les élections.
National, je pense qu'on n'a pas besoin de parler tout le temps. Je pense qu'il y a une chose à peu près évidente pour tout le monde. Les gens voient ce qui se passe. Et ils voient que, par exemple, il y a deux mois, on considérait que la déchéance des nationalités, c'était fasciste. Ou on considérait que les frontières nationales, c'était irréalisable, qu'on pourrait jamais le faire, ou que c'était même pas souhaitable. On considérait que la fermeture des mosquées radicales, ce que nous réclamons depuis des années, c'était de la même manière extrémiste. Et puis, en deux mois, tout a changé. D'un coup, effectivement, les frontières nationales permettent d'arrêter 3000 personnes qui ne sont pas venues en France grâce à elles. C'est ce que nous a dit le ministre de l'Intérieur. Même si je regrette que ces frontières nationales aient été de nouveau démantelées, qu'elles n'existent plus, qu'on soit resté dans Schengen. D'un coup, on a fermé quelques salles de prière radicales. Mais on est très loin de la centaine de mosquées radicales qu'il faudrait fermer, alors qu'elles ont été identifiées par le ministère de l'Intérieur. D'un coup, on nous explique que la déchéance de nationalité doit être mise dans la Constitution, rien que ça. Vous voyez ? Donc, ces victoires idéologiques, on va continuer. Et je pense qu'il y a plusieurs révolutions idéologiques qui doivent encore être menées. On a réhabilité la nation et la souveraineté. On parle beaucoup de nation et de souveraineté. C'est le cœur du projet politique du Front National. Donc vous dites, on entend peu le Front National, mais en réalité, on l'entend tout le temps et partout. Parce que toutes les thématiques politiques...
C'est pas le truc du Front National. Le drapeau, c'est pas l'apanage du Front National. La patrie, elle appartient à tout le monde.
Heureusement.
Voilà.
Non mais heureusement.
Vous n'êtes pas détenteur du...
Absolument pas, et nous n'avons jamais prétendu le contraire. Mais il se trouve que les autres partis politiques ont eu honte, manifestement, du drapeau, de nos trois couleurs, du terme nation, patrie, patriotisme, souveraineté, pendant des années. Alors que les Français se réapproprient nos couleurs, notre drapeau qu'on a vu fleurir un peu partout, la Marseillaise, j'en suis extrêmement heureux parce que c'est le sens de mon combat politique. C'est la France, l'amour de la France. Mais il faut y mettre des choses concrètes derrière. Une nation, c'est une nation libre, c'est une nation souveraine. Et là va se poser la question de l'Union européenne, en tout domaine. Et les révolutions idéologiques dont je vous parlais, elles ne sont pas simplement en matière de sécurité, de terrorisme et d'immigration. Elles sont aussi en matière européenne, elles sont aussi en matière économique et sociale, elles sont aussi en matière d'école. Et ça, on pourra y revenir et on y reviendra toute l'année.
On va en reparler un petit peu plus tard, si vous voulez, Florian Philippot. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie. On en vient très rapidement à l'actualité internationale et l'actualité européenne avec cette vague d'émotions en Allemagne, émotions suscitées par les nombreuses agressions de Cologne la nuit du Nouvel An. Vous réagissez comment à cette actualité là-dessus ?
C'est l'horreur absolue. Je veux dire, là, c'est non seulement les agressions, mais également, on touche à ce qui était une des valeurs de nos sociétés occidentales, c'est-à-dire le statut de la femme, la liberté, la dignité de la femme. Et on voit qu'on est face à une régression considérable de plusieurs siècles. On revient en arrière sur la liberté de la femme, et je pense que c'est une des conséquences de cette folie migratoire.
Dans l'exagération, là. On revient en arrière sur le...
Vous trouvez qu'on est dans l'exagération ? Il y a eu combien de plaintes de femmes en Cologne ?
Il y a eu 500 plaintes. 500 plaintes.
J'ai lu beaucoup de témoignages de ces femmes. Elles ont vécu des choses absolument traumatisantes et inadmissibles. Il n'y a pas eu que Cologne, d'ailleurs. Il y a eu d'autres villes en Allemagne. On apprend que la police avait caché des choses à Stockholm, en Suède. Et on apprend que beaucoup des mises en cause sont des demandeurs d'asile, des personnes d'origine étrangère.
Vous avez forcément vu la réaction.
Donc ça a un lien avec la crise des migrants. Madame Merkel a accueilli 1,1 million de migrants l'an dernier, elle va encore en accueillir 1 million cette année, et l'Europe 3 millions.
Hier.
Et on voit les conséquences.
Vous avez vu la réaction du pape, Florent Philippot ? Vous avez vu la réaction du pape hier qui appelle à ne pas tomber dans le piège de la xénophobie ? Vous partagez cette vision du pape ?
Non, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, qui est xénophobe aujourd'hui ? Vous avez vu
qu'il y a eu des agressions racistes aussi.
Ce n'est pas la xénophobie qui a agressé ces femmes. Ce sont des gens qui ont agressé ces femmes. Ce sont des pratiques moyenâgeuses qui ont agressé ces femmes. C'est pas la xénophobie. Mais donc je pense qu'il faut pas se tromper de combat. Et plus on laissera...
Martinien, Nicolas Roper.
RFI. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi politique, notre invité ce soir, Florian Philippot, l'un des vice-présidents du Front National. Venons-en maintenant à votre parti, hein, il y a quasiment un mois jour pour jour. Vous étiez battu dans la région Grand Est par le candidat de droite, comme Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Marion Maréchal en PACA. Après ces résultats, vous n'avez jamais employé le mot d'échec. Marine Le Pen tablait sur des victoires dans 4 à 5 régions. Résultat, vous n'en avez remporté aucune. C'est pas un revers, selon vous ?
L'objectif, c'est toujours de gagner. Donc, si vous voulez me faire dire que j'aurais préféré gagner ma région et Marine la sienne ou Marion la sienne, bien sûr, évidemment. Maintenant, il faut regarder aussi dans quelles conditions leur victoire, entre guillemets, s'est faite. Retrait de la gauche qui s'est fait à Rakiri, dans le Nord et dans le Sud, qui renonce à avoir des élus, à représenter même leurs électeurs, c'est quand même bizarre en démocratie, pendant 6 ans. Chez moi, une fosse triangulaire, puisque la gauche était formellement présente sur le papier, mais appelée à voter en réalité à droite, au second tour. Et là, d'ailleurs, ils vont gouverner ensemble, hein, les quelques élus de gauche, plus la majorité de droite, dans ma région Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine. Et en nombre de voix, nous avons battu notre record, malgré une abstention beaucoup plus forte qu'à la présidentielle. On a fait 400 000 voix au second
tour. Près de 7 millions de voix au second tour.
Exactement, près de 7 millions de voix au second tour, contre 6,4 millions à la présidentielle, alors qu'il y avait 25 points de participation en moins. Donc c'est quand même une performance tout à fait extraordinaire, et un score en pourcentage également qui est le plus haut jamais obtenu. C'est pour cela qu'il est difficile de parler de défaite ou d'échec dans ces conditions.
Mais est-ce que
nous avons des groupes considérables d'élus. On a même plus d'élus régionaux que le Parti Socialiste sur toute la France.
Ouais, 358. Mais est-ce que cette stratégie du seul contre tous, à un moment, ne montre pas ses limites là aujourd'hui.
Mais on n'est pas seul contre tous.
Il se trouve qu'en face,
ils sont acculés à se mettre systématiquement ensemble dans des espèces de coalitions. Alors c'était UMP, UDI, Modem, puisque ces partis-là se présentent maintenant systématiquement ensemble. L'UDI et le Modem ne sont plus jamais sous leur propre couleur, plus jamais. Donc ça se demander même s'ils existent encore comme parti politique. Et au second tour, ils fusionnent avec le Parti Socialiste, quasiment, à peu près.
Ils n'ont pas fusionné.
Oui, à peu près. Quand on appelle à voter les uns pour les autres, on se retire les uns pour les autres. Ça, c'est une fusion ou une quasi-fusion. Mais on les a acculés à dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler, voter tout ensemble, gouverner ensemble, gérer ensemble, parce qu'ils sont de la même mouvance idéologique. C'est-à-dire que ce sont des partis politiques qui ont déjà mené la France là où elle est aujourd'hui, en tout domaine, qui ne croient plus en la nation, en la France, qui ne veulent pas une France souveraine et libre, qui sont dans le fantasme de l'immigration massive et du communautarisme, qui sont dans le fantasme de la mondialisation sauvage, qu'ils appellent heureuse, mais moi je la vois sauvage. Et à partir de là, tant mieux, on recompose la vie politique française sur le vrai clivage, c'est-à-dire les patriotes que nous sommes face aux mondialistes qu'ils sont.
Dans ce vrai clivage qu'on a vu à l'œuvre selon vous, et dans le Nord et dans le Sud, entre le Front National d'une part
et d'autre
part,
dans l'Est.
Et dans l'Est, est-ce que vous appelez l'UMPS ? Comment expliquez-vous qu'une majorité assez large des électeurs choisisse encore ce que vous appelez l'UMPS et non pas votre parti ?
Dans les seconds tours, c'est déjà nous progressons et nous sommes clairement le premier parti de France aujourd'hui, puisque ces coalitions ont du mal à gagner dans des conditions alors qu'elles sont un agrégat de partis. Mais ils gagnent. Alors c'est vrai que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Ils gagnent au prix quand même d'une propagande terrible, nationale, locale. Enfin, chez moi, vous avez quand même les présidents d'universités de toute l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine qui ont envoyé un mail entre les deux tours à tous les étudiants et enseignants de leurs universités pour se mêler des élections régionales. Je veux dire, déjà, c'est scandaleux du point de vue de la neutralité de l'université française, du point de vue de la tradition de l'université française. Et en plus, ils utilisent des fichiers auxquels je n'avais pas accès, moi, en tant que candidat. Donc, je ne pouvais même pas répondre. Donc, ce sont quand même des méthodes tout à fait particulières. Est-ce qu'on est bien encore dans la démocratie ? Est-ce que ce sont bien des méthodes démocratiques ? Mais je ne dis pas que nous n'avons pas de responsabilité. On doit s'interroger. Il y a des gens qui, de bonne foi, ont peur de nous parce qu'ils se disent qu'ils vont diviser la société française. Mais moi, je dis c'est tout le contraire. C'est la politique de laxisme. C'est la politique de communautarisme qui va diviser et qui divise déjà violemment la société française, qui va créer des fractures, des tensions et des conflits. On l'a vu en Corse, où les gens essaient de se faire justice eux-mêmes parce qu'il y a un laxisme terrible. On le voit avec le communautarisme qui crée des chocs communautaires, des violences, des affrontements, des agressions. Eh bien, nous disons, en faisant l'assimilation républicaine, en prenant l'unité nationale, le rassemblement des Français et non pas le communautarisme, et en appliquant l'autorité de la loi républicaine et non pas le choix du laxisme, on rétablit les conditions de la concorde, de la paix et de l'unité du rassemblement. C'est comme cela qu'on va parler à ces gens-là et qu'on va désamorcer ces craintes infondées.
Roselyne Fèvre.
Alors justement, cette barrière du second tour, elle paraît très difficile, voire impossible pour l'instant. Hein, il y a ce fameux, on parlait beaucoup de ce fameux plafond de verre, la barrière des 50% quoi, pour être présent au second tour. J'ai lu une petite phrase dans Le Monde cet après-midi de Marine Le Pen qui dit « On va réfléchir à la stratégie à adopter pour lutter contre les campagnes de peur lancées à notre égard, qui semble encore efficace. » J'aimerais juste savoir, j'aimerais que vous développiez ce que ça veut dire.
C'est, je pense, exactement ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on appelle les campagnes de peur ? Ce sont ces mails de présidents d'université qui n'ont rien à faire normalement dans une campagne régionale, qui disent des carabistouilles, qui racontent n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire qui nous inventent un programme que nous n'avons pas, qui surfent sur les peurs. Ce sont les lettres qui ont été adressées par les maires.
En même temps, vous aussi, vous surfez un peu sur les peurs.
Je ne crois pas du tout, non. Non, non. Ou alors, faut me le démontrer, mais quand je vois les maires qui ont écrit à leurs administrés, les maires UMPS, évidemment, entre les deux tours, pour raconter n'importe quoi. Ce sont des campagnes de peur. Je ne pense pas que ce soit digne d'une démocratie, d'un débat
démocratique. J'entends bien, mais vous faites comment pour contrer tout cela ?
Il faut prendre à bras le corps, il faut les nommer. Il y a des gens qui les nommer les problèmes et les craintes. Il y a des gens qui pensent qu'on va diviser. Oui. Je viens de démontrer que nous étions le parti de l'unité et de la paix. Il y a des gens qui pensent qu'on va être attentatoire aux libertés. Parce qu'ils lisent ça dans ces mails, dans ces lettres qui visent à faire peur. Eh bien, oui, ils ont ça en tête parce que c'est une image traditionnelle qu'ils avaient du Front National, héritée des années et des décennies. Eh bien, je leur dis, nous sommes les meilleurs protecteurs des libertés individuelles, des libertés publiques. On en parlait tout à l'heure sur la loi renseignement. On en parle aussi par le communautarisme. Parce que vous savez, moi j'ai vu à Cologne, quand je vois la réaction de la maire de Cologne, qui explique aux femmes qu'elles doivent s'adapter en quelque sorte aux hommes qui les ont agressées ou agressées sexuellement ou même violées, en ayant un comportement peut-être un peu plus adapté, comme on dit, c'est-à-dire moins provocateur, bon, selon elle. C'est l'inverse de la liberté. Et quand vous luttez contre le communautarisme et ces tensions-là, vous redonnez de la liberté aux gens.
D'accord. Concrètement, on a bien entendu votre discours, Florian Philippot, mais concrètement, aujourd'hui, vous faites quoi pour essayer de dire aux gens, n'ayez pas peur de nous, on est un parti on va pas remettre en cause les libertés publiques. Comment vous faites alors que, visiblement, vous avez du mal à convaincre les autres partis qui pourraient éventuellement vous rejoindre? Vous avez lancé un appel à Nicolas Dupont Réunion, qu'il a rejeté. Vous alliez avec qui ? Vous faites quoi pour essayer
de
faire tout
ça ? On développe avec conviction, avec énergie, avec dynamisme, avec bonheur, j'ai envie de dire, nos idées, parce qu'on y croit, tout simplement, et c'est comme ça qu'on va convaincre. C'est positivement qu'on va convaincre, en disant, vous voyez, on est, nous, pour une... On croit en la France, c'est pas une France fermée qu'on veut, c'est une France heureuse, France en paix, une France prospère.
Au prix de quels aménagements, sur le fond, une France sur la forme sûre de ces idées ?
Non, mais je veux dire, c'est comme ça que vous êtes convaincant, c'est en prenant les problèmes à bras-le-corps, en les nommant, j'en ai nommé deux. J'aurais pu dire, il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, j'entends les gens, ils me disent des choses, ils ont peur parfois sur certains points. Je nomme ces problèmes-là et j'essaie d'y répondre par la force de l'argumentation. Le seul exemple que je peux donner concret, c'est ce qui se passe dans nos communes. J'ai pas d'autres. Malheureusement, nous n'avons pas de région pour le démontrer. Mais on peut le démontrer dans nos communes. Ça se passe très bien dans les communes. Il y a une vie culturelle, il y a une vie artistique, il y a une vie associative. Il n'y a pas de barbelés, Vous voyez, il y a même une baisse des impôts locaux et une dynamisation économique.
Il y a pas une baisse des impôts locaux dans toutes les communes.
Il y a aucune hausse en tout cas. Et dans la moitié des villes, il y a déjà une baisse.
C'est différent.
Dans les villes UMPS, vous avez des hausses à peu près partout.
Il y a un aspect économique.
Vous reconnaissez que c'est déjà pas mal.
Un aspect économique et vous faites peur là-dessus et vous le savez. C'est sur la sortie de l'euro. Quitter l'euro, ça fait peur. Notamment à une frange de la droite qui serait d'accord peut-être pour aller sur les rives du Front National, mais qui reste, qui sont conservateurs, par exemple chez les Républicains, ils n'osent pas passer le pas parce qu'il y a le sujet de l'euro qui les inquiète. Est-ce que vous allez avoir une inflexion sur votre politique
et là-dessus, on sent d'ailleurs que vous avez un petit peu évolué.
Non, tout est fait pour...
Aujourd'hui, vous prenez un référendum pour la sortie de l'euro ?
Non, un référendum, on n'a jamais changé depuis 2013, un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, comme ils vont le faire bientôt au Royaume-Uni.
Non, mais vous savez que c'était un problème pour le Front National.
Non, mais attendez, pour essayer de faire peur aux Français sur cette question-là. De la même manière, on leur dit, il leur a été dit n'importe quoi. Quand vous avez Sarkozy, je prends juste un exemple, il était quand même chef de l'État. Donc, normalement, il est censé mesurer ses propos. Bon, qui expliquait que si on quittait l'euro et qu'on revenait à une monnaie nationale, qui ne serait pas l'ancienne, à une nouvelle monnaie nationale, on aurait une multiplication par deux ou par trois, je le cite. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à 2 000 milliards près. Par deux ou par trois de la dette publique. Tout cela est faux. Tout ça a été démontré, tout ça est faux. Au contraire, ça dynamiserait l'économie.
Il n'y aura pas d'évaluation.
Mais une dévaluation ne serait pas forcément mauvaise. Au contraire, ça redonne du souffle.
Monsieur Philippot, ça ne va pas dans le sens de l'histoire.
Elle est moins nécessaire maintenant, en tout cas pas dans la même ampleur, parce que l'euro a baissé, Dieu merci. Mais non, ceci, le sens de l'histoire.
Non, ça ne va pas dans le sens
de l'histoire. Non, les monnaies plurinationales, on a déjà eu beaucoup dans l'histoire, elles n'ont jamais fonctionné. Regardez. Le Canada, les États-Unis, la Chine, mais même des pays plus petits que nous, la Corée du Sud, la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni, ont leur monnaie nationale. Ils vont mieux.
On compare à la France et la Chine quand même.
Des pays plus petits que nous, la Suisse, la Norvège vont mieux que nous. La Suède a lancé un débat sur cette question-là au niveau gouvernemental. Il ne faut pas se fermer les yeux sur cette question-là. C'est une question, je veux dire, économique, bien sûr. Parce qu'il faut s'interroger sur les causes de la désindustrialisation. Or, il n'y a pas de réindustrialisation, notamment sans monnaie nationale, adaptée à notre économie. C'est aussi une question politique.
Mais Florian Philippot,
quand on n'a pas de monnaie, on n'est pas libre. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Tout ce qu'on leur dira contre le chômage, ce sont des mensonges si on n'est pas libre.
Vous serez d'accord pour dire que même le débat existe au sein même du Front National sur cette question de la sortie de l'euro?
Non, on peut débattre de la manière de présenter les choses.
Si j'ai
de convaincre et d'être pédagogue. Dominique et ça, c'est notre responsabilité.
Ce que propose le FN, c'est bien une monnaie européenne commune et par ailleurs une monnaie nationale dans les frontières françaises. Est-ce que c'est beaucoup moins intimidant, notamment pour les entrepreneurs, qu'une monnaie unique ou qu'une monnaie nationale ?
Alors, que les choses soient claires, la monnaie fiduciaire, celle qui circulera, que vous aurez sur votre compte en banque, etc., c'est une monnaie nationale. Bon, il n'y a pas de double monnaie. La monnaie commune, c'est ce qui existait avant, c'est-à-dire l'écu. C'était une monnaie de compte. Ça peut faciliter des transactions, éliminer du risque de change.
C'est ce que proposait Jean-Pierre Chevènement.
Non, mais ça existait. Ça existait pendant 15 ans ou 20 ans même. C'était l'écu. Ça peut être une solution. D'autres économistes disent que c'est même pas nécessaire. Ça peut aussi être une solution transitoire. On peut avoir pendant quelques années une monnaie commune, puis des monnaies nationales, tout simplement. Mais j'incite chacun simplement à réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'un État qui ne maîtrise pas ses frontières, qui ne maîtrise pas son budget, puisque nous ne sommes plus libres depuis le traité budgétaire, qui ne maîtrise pas sa monnaie, ni sa loi, qui n'est plus souveraine, qui est soumise aux directives de Bruxelles, ni sa diplomatie et son armée à cause de l'OTAN? Qu'est-ce qu'un État dans ces conditions et quelle politique peut-il offrir à ses compatriotes ? Il faut y réfléchir, c'est une vraie question de fond.
Où nous emmènerait en termes monétaires le FN au pouvoir ? Vers la cohabitation de deux systèmes monétaires, vers un système monétaire unique et national, vers une double comptabilité européenne ou nationale ?
Non, une seule monnaie nationale. Je vous ai dit, avec éventuellement cette monnaie commune, mais qui existait déjà et qui existe dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Ça, c'est simplement une monnaie de compte, mais il y a une seule monnaie qui circulera. Et un système monétaire international, par contre, dans lequel on serait inséré forcément, qui est d'ailleurs pas extraordinaire, qui est source de beaucoup de déséquilibre. Mais c'est une autre question. Il y a beaucoup de crises financières régulières.
Très rapidement, ce sujet-là de l'euro, vous allez en débattre lors d'un séminaire le mois prochain à huis clos. Vous allez vous poser la question de cette proposition de la sortie de l'euro. Est-ce que ça va faire l'objet d'un débat entre vous?
Mais pas sur le fond. Je veux dire, nous sommes un parti souverainiste et patriote.
Donc cette idée est validée par tout le monde.
Non, on va discuter de la manière de présenter les choses, mais pas que sur l'euro d'ailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on discute. On va se perfectionner pendant ce séminaire. Vous voyez, on va discuter de quelles sont nos forces, comment ça se fait qu'on en est là, à un point où on est le premier parti de France, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille encore mieux. C'est ça le but.
Avec les idées de Mélenchon. Le premier parti de France avec les idées de Mélenchon économiquement.
Pourquoi Mélenchon ?
Pourquoi premier parti ?
Mélenchon, j'ai jamais compris par exemple sa position sur l'euro. Il est pour et contre en même temps.
En quoi premier parti de France ? En nombre de militants ?
En nombre de voix.
En nombre de voix ?
Ah bah oui, vous regardez les élections régionales, clairement. Sûrement. Le meilleur juge, c'est le premier tour, puisqu'après ils se mettent ensemble, ils se retirent. On est clairement en tête.
En termes de
et
militants,
même devant des coalitions.
En termes de militants, vous n'êtes pas du tout le premier parti de France. En termes de maillage électoral, vous n'êtes pas du tout.
En termes de militants, vous n'en savez rien, parce que le nombre d'adhérents.
Vous avez 56 000 adhérents à ce jour, a priori.
Mais le nombre d'adhérents au PS et à l'UMP compte des élus, beaucoup d'élus de permanents. Je ne suis pas certain qu'ils soient très militants sur le terrain. La plupart de nos adhérents, nous, sont des militants sur le terrain.
Lors de ce séminaire, vous allez aussi aborder l'autre grande question. Ça va être le changement de nom du parti, ça revient assez régulièrement, notamment souvent après les scrutins électoraux. Là, a priori, pour la première fois, Marine Le Pen commence elle-même à réfléchir à cette idée d'un changement de nom.
Ouais, c'est une question à laquelle on va en parler forcément, mais c'est une question à laquelle on peut réfléchir. C'est une question qui se pose parce que oui, on rencontre tous des gens qui nous expliquent que rien que Front National, ça les empêche de nous écouter. Rien que le terme, le sigle FN, Front National, ça les empêche de nous écouter. Bon, donc ça mérite d'être posé. C'est aussi une force.
Vous pensez à quoi comme nom, vous ?
Ah, j'ai pas, on a pas.
Les patriotes,
déjà, par exemple. Patriote, c'est un très joli terme, mais c'est ce qui nous définit. évidemment. Mais,
donc,
mais
on n'en est pas du tout là. Par exemple.
On
n'en est
pas
du tout là.
On sera pas seul. Il n'y aura pas de concours de noms lors de ce séminaire, je vous le dis déjà. Mais par contre, qu'on réfléchisse à cela, parce que est-ce que c'est une barrière psychologique pour certains qui les empêche même de nous écouter? Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'on puisse, on peut ensuite être, ne pas être d'accord ou ne pas réussir à convaincre quelqu'un, mais au moins qu'il nous écoute, qu'il écoute nos arguments, nos idées, nos propositions. Mais c'est en même temps une force. Marine Le Pen a réussi, depuis qu'elle est à la tête du Front, c'était en 2011, à faire de ce parti politique une machine électorale extraordinaire, une machine de rassemblement des patriotes qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent de partout. Nous avons des collectifs qui travaillent autour, avec le Rassemblement Bleu Marine, dans la culture, l'écologie, l'enseignement, bientôt dans les banlieues, dans le domaine de la santé. Vous voyez, donc le Front National, c'est aussi une machine extrêmement performante.
Mais juste sur
une
belle
famille politique.
Juste pour revenir sur le changement de nom, est-ce que ça pourrait intervenir avant la présidentielle de 2017? L'idée d'un changement de nom.
Rien n'est impossible.
Et à titre personnel, est-ce que vous jugez qu'il présente plus d'avantages ou plus d'inconvénients pour le Front National de conserver ce nom?
Alors, si la présidente du mouvement décide d'ouvrir ce débat, cette question en tout cas, je réserverai ma position à mes camarades. Voilà.
Mais on sait que vous-même, vous avez toujours été favorable. C'est une idée que vous défendez depuis quelques
J'ai
temps.
J'ai toujours été favorable à ce que ce débat puisse exister, soit pas tabou. Ça, voilà. Mais après, honnêtement, c'est pas une question simple. Il faut y réfléchir. Il n'y a rien d'évident dans cette question-là. Et puis, il faut voir ce qu'on peut mettre aussi en termes de réalité politique derrière. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille davantage vers le Rassemblement. Vous parliez, j'ai pas rebondi, mais vous parliez tout à l'heure de M. Dupont-Aignan. Oui, il se trouve qu'on partage tout, ou presque, avec lui. En plus, moi, je suis gaulliste, à titre personnel, il l'est aussi. Donc on partage encore plus, nous deux. Moi, je pense que l'union des patriotes est indispensable. Malheureusement, il veut être candidat à la présidentielle. Donc, pour l'instant, avant 2017, en tout cas, il ne fera rien avec nous. Mais je le regrette, parce que la France ne peut pas se permettre d'attendre un an supplémentaire. Or, il a fait 3,8% régional. Eh bien, 3,8% de patriotes, ça n'est pas rien. C'est peut-être ça qui fera une majorité un jour pour nous permettre de chasser l'horrible politique qui est au pouvoir actuellement en France et qui l'est depuis des décennies, et d'imposer un changement heureux à notre pays.
Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire venir à vous des gens comme Nicolas Dupont-Aignan, quand vous faites venir également à vous des personnes comme Renaud Camus, qui rejoint le Ciel? Renaud Camus, c'est le théoricien du grand remplacement.
Le Ciel, c'est pas le Front National.
Bah, c'est un parti qui est un parti frère du Front National, qui fait partie...
Oui, mais c'est pas le Front National.
Oui, ben
s'il avait rejoint le Front National, il aurait rejoint le Front National.
Il y a un identitaire, Philippe Vardon, qui a été élu au régional.
Oui, enfin,
il y a Axel Lousteau, un membre du GUD, qui a été élu aussi au conseil régional. C'est extrême droite extrêmement radicale.
Vous avez M. Longuet ou De Végian, qui ont été ministres UMP, donc il y avait d'autres engagements de jeunesse.
Mais qui ne sont plus
l'extrême droite. Oui, M. Vardon, quelqu'un qui a eu un autre engagement de jeunesse, il a changé, il l'a dit lui-même, il n'est plus dans cette mouvance-là.
Donc Renaud Camus, ça ne vous pose pas de souci?
Mais Camus, il n'est pas au front.
Non, il est au Ciel. Mais ça vous
pose... Il est pas encore au Ciel.
Mais... Au Ciel, ce mouvement s'appelle le Ciel. Ça ne vous pose,
oui,
pas, bah, ça vous pose aucun souci.
Ça regarde le Ciel.
Ça ne vous pose aucun souci.
Ça regarde le Ciel. Ça ne me regarde pas, moi.
Très rapidement, il nous reste un petit peu plus de 6 minutes. Florian Philippot, on va venir aux primaires à droite qui vont se dérouler cette année. Quel regard vous portez sur le favori des sondages, Alain Juppé? Un mot sur son positionnement et son idée de ne faire qu'un seul mandat s'il est élu.
Ah, il copie là aussi le Front National. Parce que nous avons proposé dès 2012 dans notre projet un septennat unique pour le mandat présidentiel. Monsieur Juppé, pour le moment, il apparaît comme plus rassembleur que Sarkozy, qui lui est très démonétisé, c'est une évidence. Il apparaît comme plus rassembleur, donc plus redoutable pour nous. Il faut se dire les choses. Bon. Maintenant, il a réussi
D'autant qu'il se durcit un peu.
À se faire passer pour nouveau. Hein, il y a 21 ans, il était Premier ministre. Pour l'instant, il a réussi à se faire passer pour nouveau. Les gens ont un peu oublié qu'il est en responsabilité de la politique menée depuis des décennies. Je ne suis pas sûr que ce positionnement résiste à une campagne présidentielle.
Mais là où vous êtes un peu injuste, c'est que la réforme des régimes spéciaux, c'est quand même Juppé qui a voulu la faire, et c'est Chirac qui l'en a empêché, on va dire.
Ouais.
Donc vous êtes un peu injuste avec Juppé.
Enfin, Juppé, vous savez, Alain Juppé, c'est l'homme qui voulait quand même aussi... faire du mal à la sécurité sociale. Et je ne suis pas sûr que ce soit un progrès social extraordinaire que de faire du mal à la sécurité sociale. C'est l'homme qui a validé tous les traités européens, qui nous ont dépouillés, qui nous ont rendus vulnérables aussi bien sur la sécurité physique que la sécurité économique et sociale, qui a transféré notre souveraineté, notre liberté de peuple, donc notre démocratie. Vous savez, M. Juppé a sorti un livre, je crois, qui s'appelle « Un État fort ».
Un État fort, oui.
Bon, très bien. Je suis favorable à un État fort. Sauf que quand on l'a affaibli comme il l'a fait, en lui retirant, en le dépouillant de sa monnaie, de sa frontière, de son budget, de sa loi souveraine, de son armée libre, de sa diplomatie libre, et c'est assez piquant, voire navrant, d'appeler son livre ensuite l'État fort, c'est pas crédible.
Et très rapidement, il nous reste.
Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il est assez
redoutable. Il nous reste un petit peu de 4 minutes dans cette émission. Un petit mot, une question de Dominique Albertini sur Goodyear.
D'actualité, vous parliez de social. 8 anciens salariés de Goodyear ont été condamnés aujourd'hui à 9 mois de prison ferme. Ils ont séquestré 2 cadres de l'entreprise en 2014. Qu'en pensez-vous ?
Il faut regarder dans le détail, ça me paraît un peu violent comme sentence. Prison ferme, il faut regarder leur état à ce moment-là de désespérance sociale et de colère sociale. Tout ça n'est pas acceptable, on ne séquestre personne et il faut une condamnation évidemment, il faut que la justice soit faite. Maintenant, vu les peines dont écopent certains délinquants ou criminels qui ont blessé physiquement des gens, qui ont fait des choses inacceptables, et qui eux ne sont pas condamnés à la prison ferme, ça peut paraître un peu violent, mais il y a un climat de toute façon de tension sociale dans notre pays du fait du chômage de masse, de la pauvreté qui grandit, des petites retraites qui est également malheureusement gagne du terrain. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette violence sociale en recréant l'emploi, les conditions de l'emploi et de la réduction des inégalités, on ne sortira pas de ce genre d'extrémité.
Allez, on en vient à la dernière partie de l'émission avec les questions un petit peu plus personnelles. Il nous reste un petit peu moins de 3 minutes. Florian Philippot, vous avez gardé contact, vous, avec vos anciens camarades de promotion de l'ENA que vous avez fait ?
Assez peu, quelques-uns, de manière, je l'avoue, de plus en plus épisodique. Je le regrette d'ailleurs, mais on a chacun nos agendas et nos emplois du temps. Voilà, mais quand je peux, j'en suis très heureux.
Voilà une question qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Une chanson de Bowie.
Ouais.
Bah, je ne sais pas, donnez-moi un titre.
Je vais vous donner Let's Dance. Donc,
Let's Dance.
Je ne vais pas être riche.
Vous aimez Bowie ?
Non, mais j'aime bien le Bowie que connaissent la masse des chants. C'est-à-dire, je suis pas un spécialiste de Bowie, mais j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je trouve que nous avons eu trois disparitions, trois décès très très marquants et très très tristes. Delpech, Galabru, Bowie. C'est dur. Ce
pas
début
mettre
d'année,
vraiment
c'est...
tous dans la même catégorie, mais bon.
Non, mais enfin trois personnes oui, qui ont quand même pour point commun d'avoir émerveillé dans leur domaine des millions de personnes.
Dominique Albertini.
Vous citez souvent De Gaulle parmi vos références. Y a-t-il d'autres personnalités, auteurs, intellectuels qui vous ont inspiré ou vous inspirent encore ?
Moi, j'ai regardé beaucoup de choses. Je puise pas mal de ma réflexion en réalité dans l'histoire et dans l'histoire de France. Je suis en train en ce moment de lire une biographie de Mazarin. C'est intéressant sur la diplomatie, sur la conduite des affaires de l'État. Je trouve qu'on apprend parfois beaucoup aussi, on s'inspire beaucoup intellectuellement quand on lit l'histoire, quand on lit l'histoire de France.
Vous aimeriez être...
Je me suis intéressé par exemple au règne de Louis XI, la Ragne, qui est trop méconnue encore, et l'universel à Ragne qui est un des bâtisseurs de la France, de l'unité française. Et c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui, refaire l'unité, retisser l'unité française. Vous voyez, donc je pense que c'est dans l'histoire. Parmi les penseurs, je m'intéresse à un grand nombre d'entre eux, mais je pense que c'est dans l'histoire de France qu'on apprend beaucoup de choses.
Où est-ce que vous voyez dans 2 ans, dans 10 ans ? Est-ce que vous voyez encore en politique ?
Ah, je l'espère, mais je le vois pas comme un... Surtout pas comme une profession, surtout pas. Je veux dire, moi je me vois dans l'engagement pour mon pays, de manière générale. Ça va passer par... la politique, je l'espère, un poste exécutif. Hein, et je pense que je serai avec mes amis à ma place, c'est-à-dire être complètement au service de mon pays, de ma nation, de mes compatriotes. C'est comme ça que je vois les choses. A priori, ça passe aujourd'hui par le mandat électif, ça passe par la politique. Il y a plein d'autres manières de servir son pays.
Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir répondu à notre invitation. Mathias Guelchani était comme chaque semaine à la réalisation de cette émission. Merci à lui et à Audrey Atoni. La semaine prochaine, c'est le député Les Républicains Éric Ciotti qui sera l'invité de Mardi Politique. Bonne semaine à tous à l'écoute de la Radio du Monde.